L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu dans cette salle? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en quelques instants? Amen. J'aimerais qu'on se tienne debout quelques instants. On va prier et vraiment demander au Seigneur de bien nous diriger ce matin dans la prédication de sa parole. Seigneur notre Dieu, notre Père, encore une fois, c'est un privilège de se réunir ensemble dans ce lieu pour laisser monter vers toi ces chants de louange et d'adoration. Et maintenant, Seigneur, on a besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit, ton onction sur ton serviteur qui va annoncer ta parole. Je prie, Seigneur, tu ouvres notre cœur, tu ouvres notre intelligence ce matin, afin que ta parole puisse tomber dans une bonne terre, puis qu'elle puisse produire du fruit en abondance. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, et tout le monde, on peut dire Amen. C'est vraiment un grand privilège pour moi d'être avec vous ce matin. On a deux réunions de prévues aujourd'hui, ce matin, puis une autre à 16 heures. Et puis, j'ai la ferme conviction dans mon cœur que les deux messages que je veux partager avec vous aujourd'hui sont parmi les messages les plus importants que vous pouvez entendre à cette époque-ci, à notre époque, dans notre génération, parce que nous vivons vraiment des temps particuliers, des temps spéciaux, qui ont longtemps été prophétisés dans la parole de Dieu, et finalement, nous sommes rendus là, nous sommes en train de vivre ces prophéties-là qui ont été données par les prophètes de Dieu. Alors, ce matin, le titre du message, c'est « Le roi de gloire revient ». Et on devait avoir l'audiovisuel, des vidéos que j'ai apportées, mais apparemment que ça ne fonctionne pas. Alors, on va se priver de ça ce matin, mais peut-être que cet après-midi, ce sera possible pour la deuxième partie de ce message. Alors, le roi de gloire revient. Et si vous avez votre Bible ou peut-être que c'est sur l'écran, nous allons lire un passage des Écritures qui se trouve dans le livre des psaumes. C'est le psaume 24, les versets 9 et le verset 10 du psaume 24 qui dit ceci, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. » Alléluia! Le titre, comme j'ai mentionné du message, c'est « Le roi de gloire revient ». Et si nous disons que le roi de gloire revient, bien, c'est parce qu'il est déjà venu. Parce qu'on ne peut pas revenir à moins d'abord d'être venu une première fois. Et c'est exactement ce qui est arrivé il y a plus de 2000 ans maintenant. Le roi de gloire est venu, le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il était venu chez les siens et il était venu comme le roi afin d'établir son royaume sur la terre. Mais comme nous le savons, le peuple juif ne l'a pas reconnu. La Bible dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Et c'est quand même bizarre parce que Dieu avait permis l'installation de la royauté en Israël comme une figure, si vous voulez, un symbole du véritable royaume de Dieu qui devait venir un jour avec le véritable roi qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, les trois premiers rois de la royauté en Israël furent les plus grands, Saül, David et Salomon. Et malheureusement, à cause de certaines choses dans la vie de Salomon, après sa mort, la royauté en Israël a été divisée en deux, puisqu'il y a 10 tribus parmi les 12 qui se sont séparées des deux autres. Ils ont formé ce qu'on appelait le royaume du Nord ou le royaume d'Israël. Et les deux autres, Juda et Benjamin, sont restés au sud, former le royaume de Juda. À cause de leur idolâtrie et incrédulité, le royaume du Nord, royaume d'Israël, finalement, a été déporté en Assyrie et la royauté est disparue du Nord. Quelques années plus tard, la même chose est arrivée au royaume du Sud et eux ont été déportés à Babylone. Et même s'ils sont revenus de Babylone 70 ans plus tard, comme c'était prophétisé par Jérémie, et même si on a reconstruit le temple, reconstruit la ville de Jérusalem sous Néhémie et Esdras, néanmoins, la royauté n'est pas revenue non plus dans le sud du pays. Alors, depuis la déportation du royaume du Nord en Assyrie, et la déportation du royaume du Sud à Babylone, il n'y a plus jamais eu de royauté qui a existé en Israël. La royauté est totalement disparue du pays. Pourtant, les prophètes, et ils étaient nombreux, annonçaient que la royauté devait revenir un jour et qu'à nouveau, le royaume serait établi en Israël. Et ils se sont tous succédés. Isaïe, Jérémie, plusieurs autres dans l'Ancien Testament ont prophétisé la même chose, jusqu'à Malachie, qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, dernier livre de l'Ancien Testament dans votre Bible, qui a parlé aussi de la même chose. Puis, il y a une longue période d'à peu près 400 ans de silence où il n'y a pas de prophète qui parle à Israël. Et il n'y a plus personne qui parle de l'établissement du royaume, comme de quoi le royaume devait revenir, s'établir en Israël. Et 400 ans sans entendre la voix de Dieu, c'est quand même long. Amen. Aucun prophète, aucune révélation spéciale pendant 400 longues années. Puis, tout à coup, il y a beaucoup d'excitement à Jérusalem et dans les villes aux alentours parce qu'on dit, « Hey, venez voir au désert un prophète. » Écoute, ça fait 400 ans qu'on n'a pas de prophète en Israël. Et là, il y a un prophète au désert et son message est très intéressant. Il prêche, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Alors, ils sont sortis de leur maison, sortis de leur faubourg, ils sont venus voir au désert. Vous connaissez bien cet homme, c'était Jean-Baptiste qui préparait la venue du roi qui était sur le point de se manifester. Et effectivement, quelques jours plus tard à peine, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui part de Nazareth, va se rendre dans le désert, au Jourdain, pour débuter son ministère public. Et curieusement, il prêche exactement la même chose. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors, ils sont venus et ils ont dit d'abord à Jean-Baptiste, en fait, ils lui ont posé deux questions. Ils lui ont dit, « Es-tu Élie? » Pourquoi est-ce qu'ils ont posé cette question? Bien, probablement pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il ressemblait à Élie, parce qu'il avait un manteau de poils de chameau, comme Élie avait un manteau de poils de chameau. Mais surtout parce que les dernières paroles du dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, c'était « Je vous enverrai Élie avant le grand jour du Seigneur. » Et Jean-Baptiste a répondu « Non, je ne suis pas Élie, je suis celui qui prépare la venue du roi qui va se manifester bientôt. » Et quand Jean-Baptiste a répondu ça, ils ont fait une deuxième question. Ils ont dit « Si tu n'es pas Élie, es-tu le prophète? » Non pas un prophète, mais le prophète. Parce qu'il savait très bien que Moïse, il y a plusieurs années auparavant, avait déclaré qu'un jour, Dieu va envoyer le prophète et vous devez l'écouter parce que le royaume sera établi à ce moment-là. Et il va répondre encore une fois qu'il n'est pas le prophète, mais il prépare le chemin pour la manifestation du prophète, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus est venu, il annonce la même chose. Il y a eu ce transfert sacerdotal au Jourdain de l'ordre lévitique au profit de l'ordre Melchisédek, sous lequel ordre le Seigneur Jésus-Christ devait faire son ministère. Et à partir de ce moment-là, comprenez-vous, Jésus va débuter son ministère public, qui va durer à peu près 3 ans, comme nous savons, et il va marcher de façon incontournable vers une journée en particulier qui avait été prophétisé très longtemps auparavant par le prophète Daniel, dont nous avons les écrits dans chapitre 9, versets 25 jusqu'à 27, qui avait prophétisé une journée particulière où le roi devait se présenter officiellement à Israël pour lui donner l'opportunité de l'accepter ou de le rejeter. Alors, si vous relisez les évangiles, sachant que Jésus n'agit pas par hasard, rien de ce qu'il fait, c'est fait à la dernière minute, mais tout est prévu, tout est calculé, tout fonctionne selon les prophéties de l'Ancien Testament, bien, ça nous donne toute une autre image des évangiles et de la vie de Jésus lorsqu'il est venu ici sur cette terre. Il marchait de façon incontournable vers cette journée-là. Et vous savez, quand la journée était sur le point d'arriver, vous lisez dans les évangiles qu'il a décidé de monter sur Jérusalem. il devait monter sur Jérusalem pour arriver à temps pour accomplir cette vieille prophétie dans l'Ancien Testament. Et il s'est rendu jusqu'à la montagne des Oliviers et il va s'apprêter, parce que là, la journée est arrivée, à traverser ce pont-là qui existait à l'époque de Jésus, qui reliait la montagne des Oliviers avec la porte dorée et l'esplanade du Temple, qui était de l'autre côté de la porte dorée. Aujourd'hui, ce pont n'existe plus, mais au temps de Jésus, le pont existait. Il enjambait la vallée du Cédron, si vous voulez, qui est juste entre la montagne des Oliviers et la vieille ville de Jérusalem. Et Jésus est là, et en cette journée-là, le Seigneur s'est arrangé pour qu'il y ait la plus grande foule qu'on a jamais vue à Jérusalem, afin que le plus grand nombre possible puisse assister à l'accomplissement de cette vieille prophétie de Daniel, le roi qui se présente officiellement à Israël, soit pour être accepté ou être rejeté. En fait, il y avait une grande foule déjà, parce que dans l'Évangile de Marc, 14e chapitre, versets 1 et 2, ça nous dit qu'on était à quelques jours de la fête de la Pâque. Et si vous connaissez un peu votre Bible, vous savez qu'il y avait trois grandes fêtes en Israël. Il y a encore trois grandes fêtes aujourd'hui, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Et à chacune de ces trois fêtes-là, dans le livre du Deutéronome dans l'Ancien Testament, Dieu ordonnait à tous les hommes, avec leur famille, de monter à Jérusalem pour célébrer la fête. Alors déjà, il y a une grande foule parce qu'on est tout près de la fête de la Pâque. Deuxièmement, alors que Jésus a décidé de monter à Jérusalem pour arriver à temps pour cette journée-là prophétique, il s'est arrêté à différents endroits, notamment à Jéricho, qui est tout proche de Jérusalem. Et à Jéricho, il a prêché la parole, guéri plusieurs malades, et ça, c'est fort, c'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, et le verset 11, ça dit qu'alors que Jésus prêchait et faisait son ministère à Jéricho, les gens étaient sous l'impression que le royaume de Dieu était sur le point d'être manifesté. Et je me dis, waouh, c'est quand même impressionnant, parce que ces gens-là ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, comme vous et moi, pour connaître les choses de Dieu puis entendre l'Esprit qui parle. Mais même sans le baptême du Saint-Esprit, ils avaient l'impression que le royaume était sur le point d'être manifesté. Alors, c'est pourquoi il y a plus de gens qui sont venus à Jérusalem, parce qu'ils s'attendaient à une manifestation du royaume. Troisièmement, c'est intéressant aussi, c'est dans Jean chapitre 12, verset 9, plusieurs personnes sont montées à Jérusalem cette journée-là pour voir Lazare. Parce que Lazare venait d'être ressuscité, ramené à la vie par le Seigneur Jésus. Et comprends-tu, quand quelqu'un est ressuscité, tu n'as plus besoin de poster pour annoncer la prochaine réunion. Si quelqu'un dans votre assemblée ici décède, puis est bien connu ici dans votre ville, puis votre pasteur dit non, j'ai une parole, j'ai un réma du Seigneur, c'est pas pour la mort éternelle, mais cet homme-là va revenir à la vie. Vous priez, il est ressuscité, il est ramené à la vie. Comprends-tu que tous les journalistes sont ici pour voir cet homme-là? Puis probablement que vos amis puis vos ennemis aussi vont venir pour voir ce phénomène-là. Alors, c'était la même chose à l'époque. La Bible dit que les gens sont venus à Jérusalem pour voir Lazare qui avait été ressuscité des morts. Et c'est bizarre aussi parce que dans les mêmes versets, vous pouvez lire que les pharisiens aussi s'étaient rendus à Béthanie parce que là, il y avait une grande réception, la Bible nous dit. Beaucoup de monde était venu parce qu'on célébrait Lazare qui a été ramené à la vie. Et la Bible dit les pharisiens étaient jaloux du succès du ministère de Jésus. Et ils étaient venus, tenez-vous bien, pour tuer Lazare une deuxième fois. Mais ce n'est pas arrivé, bien sûr. Alors, il y avait plus de monde que d'habitude à Jérusalem parce que les gens voulaient voir ce monsieur-là qui avait goûté à la mort, mais qui avait été ramené à la vie. Finalement, dans Luc chapitre 10, verset 1 jusqu'à 16, il y avait beaucoup plus de monde que normal parce que c'était le résultat d'une mission spéciale que Jésus avait confiée à 70 de ses disciples. Il en avait choisi 70. Il leur avait donné cet ordre d'aller dans toutes les villes, dans tous les faubourgs d'Israël, pas dans les villes des païens, juste dans les villes d'Israël. Puis il leur a dit, annoncez que le royaume est sur le point d'être manifesté. Guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts et dites surtout, le royaume est sur le point d'être manifesté. Je ne sais pas si tu le sais, mais 70 disciples qui vont prêcher la parole de Dieu dans les rues, dans les centres d'achat, dans les maisons, partout en ville, tu vas avoir du résultat. Le problème, c'est de trouver 70 disciples qui vont aller prêcher. Mais la parole de Dieu nous demande de prêcher de la parole de Dieu, puis il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et 70 disciples qui prêchent ces choses-là, c'est certain qu'il y a des résultats et il y a une foule supplémentaire cette journée-là à Jérusalem. Si bien que cette journée-là, où Jésus va entreprendre la traversée de ce pont-là pour se rendre sur l'esplanade du Temple, on a une foule record. On n'a jamais vu autant de gens à Jérusalem dans les années précédentes. Alors, ça va bien au tout début. La foule crie. Vous lirez dans les évangiles, c'est vraiment très impressionnant. La foule est là. La foule voit Jésus. Et les gens crient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. » Et on a coupé des branches de palmiers, on a mis des palmes sous ses pieds, sous le pont, comme on faisait à l'époque lorsqu'un roi venait et visitait une ville. On le recevait vraiment comme le roi. Et jusque-là, tout allait bien, sauf qu'à l'extrémité du pont, sur l'esplanade du Temple, il y avait les religieux qui étaient là. Et c'est toujours avec les religieux qu'on a le plus de problèmes. Il y avait les prêtres, les sacrificateurs, qui auraient dû être les premiers à reconnaître le roi, le Messie d'Israël, mais ils étaient surtout experts pour manipuler les foules. On a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Et ils ont tellement manipulé la foule qui avait commencé à crier « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur » que finalement, Jésus a été rejeté. Parce qu'eux ont soudainement compris ce qui se passait. Ils ont soudainement réalisé que Jésus s'appropriait d'une vieille prophétie dans Zacharie chapitre 9, verset 9, qui disait « Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient à toi monter sur le dos d'un âne. » C'est pour ça que le Seigneur avait demandé à deux de ses disciples d'aller au petit village de Béthanie, puis il dit « Vous allez trouver... » un âne qui est attaché à un poteau, vous détachez l'âne, et quand Jésus dit, vous allez détacher l'âne, le propriétaire va sortir, va dire quelque chose comme, « Hey, c'est mon âne, qu'est-ce que vous faites là? » Vous lui répondrez, « Le maître en a besoin. » Et comme de fait, ils ont trouvé l'âne attaché à un poteau, ils ont détaché l'âne, et bien sûr, le propriétaire sort et dit, « Hey, qu'est-ce que vous faites là? C'est mon âne. » Ils ont répondu, « Le maître en a besoin. » Et il a dit quelque chose comme, « OK. » Il ne sait peut-être même pas c'est qui le maître, mais comprends-tu, c'était arrangé d'avance par le Seigneur. C'est comme nos vies, frères et sœurs, c'est arrangé d'avance par le Seigneur. Alléluia! C'est lui qui a le contrôle de nos vies, puis il n'y a rien qui surprend, parce que quand il nous regarde vivre, c'est comme quand tu regardes un film pour la deuxième fois. C'est moins surprenant. Alors, c'est lui qui a commencé le travail en vous, et c'est lui qui va le terminer avec gloire. Alléluia! Parce qu'il est notre Seigneur. Alors, ils ont apporté l'âne, c'est pour ça que ça prenait un âne, parce que la prophétie disait, ton roi vient à toi monter sur le dos d'un âne. Et eux ont compris qu'ils s'appropriaient de cette prophétie-là, et les religieux de l'époque, les prêtres, n'étaient pas d'accord avec cela. Ne reconnaissaient pas Jésus comme le roi d'Israël. Ne reconnaissaient pas Jésus comme le véritable Messie qui devait venir. Alors, ils ont manipulé la foule, pour que finalement la foule change d'idée et qu'en conclusion, le roi soit rejeté. Et vous savez ce que Jésus a fait? Il a pleuré à ce moment-là sur la ville de Jérusalem. Et remarquez le texte, la Bible est un livre de précision, chaque petit mot a son importance. Il a pleuré, il a dit, « Si toi au moins, Jérusalem, tu avais reconnu le jour, pas l'époque, la saison, la semaine, le jour. » Parce qu'il y avait une journée où Jésus devait se présenter tel que prophétisé par Daniel. Si tu avais reconnu le jour où tu as été visité, ton bien-être serait comme un fleuve. Mais parce que tu l'as rejeté, tu n'as pas reconnu ton roi, les armées vont venir, vont t'envahir et ainsi de suite. Alors Jésus a été rejeté. Quoi qu'il savait d'avance qu'il était pour être rejeté parce qu'il est Dieu. Et il sait toute chose. Mais il l'a fait quand même parce que s'il y en a un qui connaît bien la nature humaine, c'est bien le Seigneur. Et il savait très bien que s'il ne se présentait pas quand même s'il savait qu'il était pour être rejeté, vous savez ce qu'il lui aurait dit plus tard? « Ah ben si tu étais venu et si tu nous l'avais dit, c'est certain qu'on t'aurait accepté. » Alors, il est venu quand même, sachant qu'il était pour être rejeté. Mais c'était dans le plan de Dieu, parce que, regardez bien, Jésus traverse le pont. Au début, ça va bien. Finalement, il est rejeté. Il se présente comme le roi. On ne l'accepte pas comme le roi. C'est comme s'il va faire volte-face et tout à coup, parce qu'il est rejeté, il devient l'agneau de Dieu, qui 4 jours plus tard exactement sera crucifié sur la croix de Golgotha et va donner sa vie, non seulement pour le peuple juif, mais pour quiconque invoquera le nom du Seigneur pourra être sauvé. Alléluia! Et c'est exactement 4 jours ici. Écoute bien, on est 4 jours avant la fête de la Pâque. Et ce détail est important, vous savez pourquoi? Parce que la loi disait dans le livre du Deutéronome qu'à chaque année, à chaque fête de Pâque en Israël, chaque homme avec sa famille devait apporter un agneau pour l'offrir en sacrifice. Et lorsqu'on apportait cet agneau, on devait le présenter au sacrificateur avant la fête pour que les sacrificateurs examinent l'animal pour s'assurer qu'il n'y avait pas de défaut. Parce que selon la loi, tu ne pouvais pas offrir un agneau blessé. Tu ne pouvais pas offrir un agneau qui avait un défaut. Ça prenait un agneau parfait. Le premier-né est parfait parce que c'était une figure du Seigneur Jésus-Christ, l'agneau parfait de Dieu qui devait venir un jour. Et cet agneau-là devait être inspecté pour s'assurer qu'il n'y avait pas de défaut. Et selon la Bible, ça se faisait exactement 4 jours avant la fête de la Pâque. C'est pourquoi on est exactement 4 jours. Il devient l'agneau de Dieu. Et c'est pourquoi Pilate ne sait pas vraiment l'importance de ses déclarations, mais à 3 reprises, dans l'Évangile de Jean, il va déclarer « Je ne trouve aucun défaut dans cet homme. » C'est comme s'il a confirmé, selon la loi de l'Ancien Testament, que l'agneau que le Père va offrir pour le salut du monde entier est parfait. Il n'y a aucun défaut. Je ne trouve aucun défaut en lui. Et 4 jours plus tard, il est crucifié sur la croix de Golgotha et le salut devient accessible pour quiconque croit. Et gloire à Dieu, il y a des gens ici ce matin qui ont cru. Amen. Et qui l'ont accepté. Et quand vous l'avez accepté, non seulement vous l'avez accepté comme votre sauveur, mais vous l'avez accepté comme votre Seigneur. Mais non seulement vous l'avez accepté comme votre Seigneur, mais vous l'avez accepté comme votre roi. Ce que Israël a rejeté il y a 2000 ans passé, vous l'avez accepté en donnant votre vie au Seigneur Jésus-Christ et en l'acceptant comme votre Seigneur, votre Sauveur, votre Roi. Vous avez à ce moment-là été transporté dans le royaume de Dieu dans lequel nous sommes ce matin. Alléluia! Nous ne sommes pas en route vers le royaume, nous sommes dans le royaume de Dieu. Alléluia! Qui maintenant est dans sa phase mystérieuse ou spirituelle, parce qu'il ne vient pas le royaume à cause du rejet du peuple juif, il ne vient pas de façon à frapper les regards. Jésus dit, on ne dira pas, « Oh, le royaume est là, le bureau chef est ici. » Non, il est en nous comme nous sommes en lui. Paul dit dans Colossiens, « Rendez grâce au Père lorsqu'il vous a délivré de la puissance des ténèbres et il vous a transporté. » Le verbe est au passé. Il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Alors, vous êtes des citoyens du royaume de Dieu ce soir. Vous êtes des fils et des filles du royaume. Vous avez du sang royal en vous. Tourne-toi vers ton voisin et dis, « Wouh, il y a quelque chose de royal en toi. » Alléluia! C'est pour ça qu'on est spécial sur cette terre. C'est pour ça qu'on est spécial sur cette planète. C'est pour ça qu'on ne marche pas comme le monde fonctionne. Parce que vous savez, il y a très peu de rois aujourd'hui sur la planète. Mais je peux vous assurer d'une chose. S'il y a un petit bébé qui naît dans une famille royale, je vous garantis que cet enfant-là n'est pas élevé ni éduqué comme les autres petits-enfants autour de lui. on va lui expliquer tout de suite qu'il appartient à un rang spécial. Et c'est pourquoi il ne peut pas dire n'importe quoi, il ne peut pas fréquenter n'importe quel endroit, il ne peut pas se tenir avec n'importe qui, parce qu'il y a un standing royal à maintenir. Et c'est pourquoi nous aussi, on ne peut pas parler avec n'importe qui, on ne peut pas se tenir avec n'importe qui, on ne peut pas avoir n'importe quelle conversation, on ne peut pas fréquenter tous les endroits que le monde fréquente, parce qu'on est une race spéciale. Alléluia! La race royale de Dieu, parce que le royaume est maintenant en nous, et nous sommes dans le royaume de Dieu. Quelqu'un doit dire « Amen » en quelque part. Mais cette phase mystérieuse du royaume est sur le point de se terminer parce que le royaume est sur le point d'être établi de façon visible, littérale, sur cette planète. Alléluia! Alors que le roi de gloire s'apprête à revenir. Et nous savons que nous sommes très proches de cet événement-là pour trois raisons que je vais vous expliquer rapidement ce matin. Puis peut-être quatre si vous êtes vraiment très sage. Première raison pour laquelle nous savons que c'est pour bientôt l'établissement de son royaume sur la terre, c'est parce que Israël a été recréé le 14 mai 1948. Écoute, c'est vraiment important parce qu'avant 1948, Jésus ne pouvait même pas revenir parce qu'il n'y avait même pas de pays où revenir. Parce qu'Israël n'existait plus. Il y a eu la grande diaspora, la dispersion depuis l'an 70. Les Juifs ont été expatriés un peu partout dans le monde entier. Mais les prophètes avaient annoncé que dans les derniers jours, Dieu va aller les chercher au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Vraiment très intéressant. On pourrait passer des journées à parler de ces prophéties-là. Tellement de précision avec les quatre points cardinaux et qu'ils vont revenir s'établir en Israël. Et vous savez, le 14 mai 1948, le mandat britannique se terminait sur la Palestine. Le mot Israël n'existait même pas avant 1948. Ça s'appelait la Palestine. Et le mandat britannique qui avait cours à cette époque-là se terminait le 14 mai 1948. Et il y avait des hommes de vision dans le pays, dont M. Ben-Gurion, qui, déjà depuis très longtemps, se réunissaient avec des futurs députés d'un futur pays qui n'existait pas encore, dans un appartement qui est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle le musée Ben-Gurion, à Tel Aviv. Et c'est vraiment très intéressant parce que le musée Ben-Gurion existe bien sûr encore aujourd'hui, et vous pouvez le visiter comme nous l'avons visité il y a quelques années passées, parce que ça n'a pas changé depuis 1946, 47, 48. C'est les mêmes draperies, les mêmes bureaux, les mêmes anciens gros microphones de radio. Et on fait simplement l'entretenir. Il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui a changé. Puis on voulait filmer. Alors, on s'est rendu il y a quelques années passées au musée Ben-Gurion à Tel Aviv avec nos caméras. Et puis, on voulait filmer. Et les hôtesses ont dit, vous pouvez visiter, bien sûr, mais c'est interdit de filmer. Et on a essayé de négocier, pas moyen, on ne peut pas filmer. Et en parlant davantage avec les hôtesses, une des hôtesses nous demande d'où nous venions. Et on a dit, on vient du Canada. Oh, elle dit, si vous venez du Canada, vous pouvez filmer. Mais on a dit, pourquoi est-ce qu'on peut filmer? Parce qu'on vient du Canada. Bien, elle dit, c'est parce que votre gouvernement canadien participe aux dépenses de l'entretien du musée Ben-Gurion. C'est quand même des bonnes choses à être canadien. Amen. Alors, on était tellement heureux pour nous filmer, puis sur les coffrets, il y a une table de DVD, puis ainsi de suite. Il y a un coffret qui s'appelle justement « Le roi de gloire revient ». Vous avez les images du musée Ben-Gurion qu'on a filmé à cette époque-là. Puis c'était vraiment intéressant parce qu'il n'y a rien qui a changé, puis on voyait le travail qu'ils ont fait à l'époque. Il n'y avait pas d'ordinateur, puis de trucs comme on a aujourd'hui. Tout était fait à la main. Puis ils avaient choisi le nom, parce que leur vision, c'était que quand le mandat britannique va se terminer, on veut créer notre pays ici. Puis ils avaient choisi le nom du futur pays, il devait s'appeler Sion. Puis dans le musée, vous voyez le mot Sion barré avec un X. Ils ont changé d'idée. Ils ont dit non, on va l'appeler Eretz Israël. Eretz Israël veut dire le grand Israël. Puis ça a été barré aussi parce qu'ils ont dit peut-être que ça va provoquer le monde arabe, le grand Israël, et ainsi de suite. Puis finalement, ils ont choisi troisième choix, le nom du futur pays, qui n'existait pas encore à ce moment-là, son nom sera Israël. Ça, on aurait pu leur sauver beaucoup de travail parce que c'était prophétisé dans la parole de Dieu. Mais bon, écoutez. Et finalement, à minuit, le 14 mai 1948, quand le mandat britannique s'est terminé, quelques heures plus tard, M. Ben-Gurion s'est tenu debout à cette grande table-là avec ses députés qu'il avait choisis, puis a déclaré à tous ceux qui pouvaient l'entendre en 1948 par truchement de microphone et la radio qu'un nouveau pays existait. Et son nom était Israël. Quelques heures à peine plus tard, le président américain, c'était M. Truman à l'époque, a confirmé ce que M. Ben-Gurion venait de déclarer, qu'effectivement, il y avait un nouveau pays qui avait été créé et son nom était Israël. Écoute, jusque-là, il n'y a rien, c'est juste par la foi. Puis si on avait le temps ce matin, waouh, quelle leçon de foi ils nous ont donnée, parce que le pays a été créé juste par des paroles. Il n'y a rien là. Il a juste dit, on crée un nouveau pays, son nom est Israël. Le président américain, M. Truman, dit, oui, c'est vrai, il y a un nouveau pays, mais c'est juste des paroles. Puis, c'est fait une réaction en chaîne, plusieurs gouvernements autour du globe, quand ils ont appris les déclarations de Ben-Gurion, du président Truman, ont dit, oui, c'est vrai, il y a un nouveau pays, son nom est Israël. Et ça, c'est le pivot sur lequel reposent toutes les autres prophéties de la fin. Parce qu'écoute, tant qu'Israël n'était pas recréé, un, Sonia ne pouvait pas revenir parce qu'il n'y avait pas de pays où revenir. Mais deuxièmement, aucune autre prophétie pouvait s'accomplir. Parce qu'il y avait des prophéties concernant Jérusalem, des prophéties concernant les déserts qui devaient refleurir, des nombreuses prophéties qui ne pouvaient pas s'accomplir tant et aussi longtemps qu'Israël n'existait pas à nouveau. Mais le 14 mai 1948, un nouveau pays, et c'est une grand accomplissement d'une vieille prédiction d'Ésaïe qui avait dit « Est-ce qu'une nation peut naître dans une seule journée? » Et la réponse est oui, Israël est né dans une seule journée, le 14 mai 1948. Alors, on sait qu'on est proche du retour du roi de gloire parce que là, Israël a été recréé. Rapidement, deuxième événement majeur, 1967, libération de la ville de Jérusalem à l'occasion de la guerre des six jours. Grande prophétie, Luc chapitre 21, Jésus dit « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations se termine. » Bien, il s'est terminé, du moins partiellement, au mois de juin 1967, lors de la prise de la vieille ville de Jérusalem. Écoute, il n'y avait même pas fait de plan pour reprendre la vieille ville, ça semble impossible. C'était la Jordanie qui contrôlait la vieille ville de Jérusalem. Mais lors de la guerre des six jours, et avec les ordinateurs aujourd'hui, c'est intéressant, tu peux remonter en 1967 et voir les déclarations des journalistes, Time Magazine, Life Magazine et les journaux de l'époque, alors que des journalistes déclarent qu'il y a eu des miracles de fait en faveur d'Israël. Mon ami, quand des journalistes admettent que des miracles sont arrivés, c'est parce que ça doit être impressionnant. Et lors de le 7 juin exactement, il y a une bombe qui a éclaté tout près de la porte des Lions. Et puis, ça a permis à des troupes israéliennes de passer par la porte des Lions. Et quand tu traverses par la porte des Lions, tu es juste en face du fameux mur des Lamentations. Et les soldats se sont rendus jusqu'au mur des Lamentations, ont trouvé que très peu de résistance du monde arabe. Et dans l'espace de quelques heures seulement, se sont rendus maîtres de la vieille ville de Jérusalem. Et vous avez certainement vu cette photo qui a fait le tour du monde à l'époque et qu'on voit souvent dans les nouvelles, les soldats qui ont enlevé leur casque, ont placé leur casque sur leur cœur et ils regardent le mur comme si c'était Dieu lui-même. Parce qu'en cette journée-là, ça faisait 2600 ans que la vieille ville de Jérusalem n'appartenait plus au peuple juif. 2600 ans passés, c'est Nabuchodonosor, le roi de Babylone, qui s'était emparé de la ville, ensuite les Perses et les Mèdes, ensuite la Grèce, ensuite Rome, ensuite la Turquie, ensuite l'Angleterre, puis finalement la Jordanie en 1967. Mais 2600 ans plus tard, Israël redevient maître de la vieille ville de Jérusalem. Et Moshe Dayan, qui était chef de l'armée à l'époque, a déclaré en cette journée-là, « Aujourd'hui, on est entré dans le Saint des Saints pour ne plus jamais en repartir. » Grand, grand signe qui prouve qu'on est très proche. Troisièmement, un autre très grand signe, l'effervescence qu'il y a en Israël présentement pour la construction d'un troisième temple. Nous, ça fait le dernier voyage qu'on a fait, parce qu'on organise des voyages de groupe presque à tous les ans depuis de nombreuses années. C'était notre 33e voyage au mois d'avril dernier. Mais à peu près 28 ans passés, j'ai eu l'occasion et le privilège d'assister pratiquement à la naissance de l'Institut du Temple, qui est une organisation qui promouvait à l'époque la construction d'un futur temple. Et 28 ans passés, quand on a visité cette institution-là pour la première fois, il ne faisait que commencer à reconstruire, à refabriquer tous les vases, les ustensiles, les robes des prêtres, dans le but qu'un jour, un troisième temple sera reconstruit sur l'esplanade du temple. 28 ans plus tard, à peu près, je peux vous dire ce matin que tout, absolument tout, a été refabriqué, reconstruit. Tout ce qui leur manquait, c'était une génisse rousse, il y a quelques années passées. Si vous connaissez votre Bible, dans Nombre, chapitre 19, vous savez qu'il y avait le sacrifice de la génisse rousse pour la purification, surtout des prêtres. Lors du Yom Kippour, il fallait que les prêtres soient purifiés pour une nouvelle année qui débutait. Et depuis longtemps, ce type d'animal n'existait plus en Israël. Mais concours miraculeux d'un Américain des États-Unis, dans le sud, un rancher aux États-Unis, qui a aidé l'Institut du Temple pour faire des croisements d'animaux. Il y a quelques années déjà, peut-être une quinzaine d'années maintenant déjà, une première petite génisse rousse est née dans un kibbutz religieux à Tsfar Afedim, dans le nord d'Israël, tout près de Haïfa. Et on a été, je pense, les premiers à pouvoir filmer cette génisse-là, parce qu'on était en tournée en Israël pour filmer. Puis j'avais entendu parler qu'il y avait une première naissance d'une génisse rousse à Kfar Hasidim dans le nord d'Israël. Et j'avais dit à mon guide, je veux aller puis filmer cette génisse rousse-là. Mais il dit, tu ne peux pas venir, c'est un kibbutz religieux, puis tu n'es pas juif, ils ne te laisseront même pas entrer sur le terrain. Mais j'ai dit, on va essayer quand même. Il dit, c'est peine perdue, mais j'ai insisté. On s'est rendu à Kfar Hasidim. Et croyez-moi, ce que je vais vous raconter rapidement, c'est la stricte vérité, c'est vraiment un miracle de Dieu. On arrive à Kfar Hasidim, c'est un petit village ultra religieux. C'est sûr qu'ils ne vont pas me laisser rentrer. Il y a des grosses barrières qui interdisent l'entrée dans le petit village. Et il y a un gardien. Puis nous, on est juste la petite équipe de télévision. Et puis, le conducteur de notre petite van parle au gardien. Il ne parle pas anglais, puis il ne parle pas français. Il parle juste hébreu. Puis notre hébreu, on n'est pas assez. Et puis, il n'y a pas moyen de se comprendre. Alors, mon guide a dit, il faut retourner parce que on va arriver. Parce que j'avais un rendez-vous avec une dame, Mme Cohen, à l'Institut du Temple de Jérusalem pour une entrevue. On va arriver en temps. Puis j'ai dit, c'est trop bête, on est ici, puis il faut faire quelque chose. Puis là, il m'est venu une idée de génie. J'en ai une par 50 ans à peu près. Puis je me suis dit, on ne peut pas communiquer avec lui, mais le langage des signes, c'est universel. Alors, j'ai pris un T-shirt rouge qu'on avait, je lui montre le T-shirt rouge, puis je lui dis, il me répond quelque chose comme, j'ai rien compris, mais j'ai pensé qu'il voulait dire, tu veux voir la jeunesse rouge? J'ai dit, yes, oui. Croyez-le ou non, il ouvre la barrière. On rentre dans le petit village, le petit kibbutz religieux, puis il y a juste un petit chemin de terre, et il n'y a personne. Puis on ne savait pas à l'époque, mais curieusement, cette journée-là, sur l'heure du midi, on est arrivé à peut-être midi 10, de midi à 2h de l'après-midi, il y avait un meeting de tous les religieux dans un autre petit kibbutz juste à côté, puis il n'y a pas un chat dans le petit kibbutz de Kfar Hasidim. Mais là, on cherche où se trouve la jeunesse rousse, puis on voit un adolescent qui marche, il est seul. Et puis, heureusement, il parle anglais. Alors, on lui dit, où est-ce que la jeunesse rousse? Oh, il y est là. Et comme de fait, elle était là dans un clos. Puis, à l'époque, elle était gardée par des soldats, parce que les questions religieuses là-bas, c'est très important. Puis, le soldat n'était pas là, parce que lui ici était un meeting dans l'autre kibbutz. Fait qu'on a pu filmer tout en entraise, puis on a pris des photos, puis on a filmé avec nos caméras. Et puis, j'ai pas fait d'entrevue avec la vache, mais... On s'est rendu à l'Institut du Temple pour 3h dans l'après-midi. Puis, Le frère qui est avec moi, il est en train d'installer le petit microphone sur la blouse de Mme Cohen. Puis moi, je lui fais la conversation. J'ai dit, Mme Cohen, vous savez, on arrive de Kfar Hassidim. J'ai dit, on a filmé la Jenis Rousse, on l'a vu. Oh, on a dit, non, monsieur, c'est impossible. J'ai dit, je vais te dire, on arrive à peine là, de Kfar Hassidim. Puis avec nos caméras, on l'a filmé. Elle dit, monsieur Mascott, vous n'êtes pas juif? J'ai dit, non. Ils ne vous ont pas laissé rentrer. Mais j'ai dit, justement, il n'y avait personne. Puis le gardien m'a dit, non. Elle dit, c'est impossible. Ben, j'ai dit, je vais le dire, je l'ai sur pellicule, je peux vous le montrer. Elle dit, écoutez, monsieur Mascott. Elle dit, c'est nous qui finançons ce projet-là. Puis nous, on ne l'a même pas vu encore. J'ai pensé lui dire, madame, nous, on a des connexions spéciales. Mais écoute, ils l'ont maintenant, ils en ont des centaines probablement maintenant, surtout dans la région de Beth Shemesh. Et récemment, il leur manquait deux autres choses, l'autel des sacrifices, puis là, c'est construit, on l'a vu de nos propres yeux à Mitzpé-Jéricho. Ça aussi, c'était toute une aventure que je pouvais vous raconter, mais ce serait trop long. Mais c'est construit. Et dernier morceau, c'est l'Arche de l'Alliance. Et apparemment, selon l'Institut du Temple, selon les rabbins, elle est en dessous de l'esplanade du Temple. Ils savent où elle est, puis ils vont la sortir au moment où le Temple sera construit. Mais tout ça pour vous dire qu'on pourrait construire demain matin un troisième Temple, ce qu'on n'a jamais vu dans les générations précédentes. Puis finalement, je vais vous expliquer la révolte du printemps arabe, puis la pression que présentement s'est placée sur Israël. C'est vraiment le psaume 83, les cinq premiers versets. Et puis, on s'attend à des choses vraiment très importantes dans les mois qui s'en viennent. Puis, en terminant ce matin, alors qu'on voit tous ces signes-là, il y a deux choses, deux événements majeurs qui sont sur le point de se produire. Premier événement, il y a un homme qui va émerger au Moyen-Orient, que la Bible appelle l'Assyrien, et il va signer un traité de paix et de sécurité entre Israël, Palestiniens et le monde arabe pour une durée précise de 7 ans. Ça, c'est dans Daniel, chapitre 9, versets 25 jusqu'à 27. Soudainement, cet homme va apparaître comme un cheveu sur la soupe. Il va signer un traité de paix, ce qu'on n'a jamais réussi de faire. Et même actuellement, le secrétaire d'État américain, John Kerry, est au Moyen-Orient, notre propre premier ministre. Et là aussi aujourd'hui. Puis M. Kerry tente de faire signer une entente de paix, puis ça ne marche pas parce qu'Israël ne veut pas céder Jérusalem. Puis les Palestiniens veulent avoir Jérusalem-Est comme la capitale de l'État palestinien et ça ne fonctionne pas. C'est toujours Jérusalem qui est l'os qui bloque dans les négociations. Et souvenez-vous de ce que Zacharie le prophète avait annoncé, Jérusalem dans les derniers jours va devenir une pierre pesante pour toutes les nations, puis ceux qui voudront la soulever vont être écrasés par elle. On est justement rendu là. Alors, il y a un homme bientôt qui va se pointer, va signer ce traité-là, puis t'es mieux d'être prêt avant la signature de ce traité-là, parce que ces 7 années-là, c'est pas vraiment de la paix et de la sécurité, ce sont les 7 années de tribulation mondiale de la fin. Et nous, on n'est pas destinés à ça. On n'est pas destiné à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi, dans ce temps-là, il y a un deuxième événement qui est sur le point de se produire. Et cet événement-là s'appelle l'enlèvement des croyants. Alléluia! Il y a une trompette qui va sonner là-haut dans le ciel. Woo! À la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, ceux qui sont morts avant nous vont ressusciter. Et Paul dit, nous qui serons restés vivants pour cet événement-là, nous serons changés dans un instant. Le mot grec est atomos, d'où on a le mot atome, la plus petite particule. Et dans un clin d'œil, General Electric avait calculé il y a plusieurs années, la rapidité d'un clin d'œil, je pense qu'il y a un millième de seconde, quelque chose comme ça. Tu sais, je viens d'en faire un, on serait déjà parti, vous auriez manqué l'enlèvement. Dans un instant, dans un clin d'œil, nous serons changés et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 jusqu'à 18. Nous serons tous, dit Paul, enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Le mot « enlevé » dans votre Bible vient du mot grec « harpazo ». Et « harpazo » veut dire « saisir vigoureusement ». Comme une maman qui va traverser avec son bambin une rue, puis une auto qui s'apprête à frapper l'enfant, elle ne réfléchira pas pendant 5 minutes. Elle va saisir l'enfant. C'est harpazo. Saisir, puis, vigoureusement. L'enlèvement, on va être saisi, puis, vigoureusement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'en va dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et vous savez ce qu'il y a dans les airs présentement? Toutes les forces démoniaques sont là. Satan lui-même est appelé le prince de la puissance de l'air. C'est plein de démons dans l'atmosphère, stratosphère, tout ce qui est. Vous avez juste essayé de faire des émissions de télévision, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous nuire parce qu'il est le prince de la puissance de l'air. Et c'est là qu'on s'en va. Puis, si vous savez qu'il y a un enlèvement prévu bientôt, est-ce que vous savez qu'il y a un enlèvement prévu bientôt? Si vous le savez, vous ne pensez pas que le diable le sait aussi? Et il voit tous les signes aussi s'accomplir? Et c'est certain que ses stratégies, c'est d'essayer d'empêcher le plus grand nombre possible de participer à cet événement-là. Mais ça va se faire tellement vigoureusement et rapidement, un instant, un clin d'œil, qu'ils n'auront pas le temps de réaliser ce qui s'est passé. Il y a des millions de personnes qui sont déjà traversées des airs, sont dans la présence du Seigneur, là-haut, dans le ciel, dans sa glorieuse présence. Alléluia! Harpazo est sur le point d'être manifesté. Et on va revenir avec lui quelques années plus tard pour établir son royaume de façon visible, physique, littérale. Et vous et moi sommes appelés à gouverner dans ce monde nouveau qui va être refait, recréé pour l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez avoir votre robe toute merveilleuse. Vous allez avoir la gloire de Dieu sur vous. Vous allez être les maires et les mairesses des prochaines villes et villages qui seront construits. Vous êtes les prochains gouverneurs du royaume de Dieu. Et présentement, ce que nous vivons, on est en l'école des rois et des reines. On est en train d'apprendre à régner. Et un jour, on va régner pour de vrai, physiquement, éternellement, avec le Seigneur Jésus-Christ, dans un monde nouveau. Alléluia! On est proche de ces choses-là, et c'est pourquoi on doit se réjouir, parce qu'on vit un temps vraiment exceptionnel. Gloire au Seigneur! Oh, nous vivons un temps exceptionnel. Nous vivons le temps du retour du roi de gloire et l'établissement de son royaume sur la terre. Ça va être merveilleux. Et on ne veut pas manquer ce que le Seigneur a pour nous dans ces derniers jours. Les derniers jours sont très intenses. Les attaques de l'ennemi sont intenses, mais d'un autre côté, la gloire de Dieu est de plus en plus intense également. Et il y a un grand dernier mouvement de réveil qui est prévu pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parce que la Bible dit qu'il va présenter cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni chose semblable. Et l'Église, c'est vous et moi. Ça veut dire que si on doit être présenté sans tache, ni ride, ni chose semblable, il faut que le Saint-Esprit nous touche. Il faut qu'il y ait un mouvement de réveil qui arrive pour que l'Église soit dans cette condition-là, prête à l'enlèvement. Et c'est pourquoi nous sommes encouragés ce matin, parce que le meilleur est à venir. La gloire de Dieu est sur le point de tomber dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a une grande dernière moisson qui va venir dans l'Église. Parce que Jésus dit, à la fin, il y a une grande moisson. Et on est rendu à la fin. Et il y a des millions de personnes qui soudainement seront transférées dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça va changer la face de l'Église. Ça va amener le feu vraiment dans l'Église et la préparer pour ce glorieux événement, l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais juste avant qu'on se quitte et qu'on termine ce matin, j'aimerais qu'on ferme les yeux, s'il vous plaît, partout dans cette salle, juste quelques instants. Et à la lumière de ce que vous avez entendu ce matin, nous réalisons que nous sommes très proches de grands bouleversements, autant dans le monde que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et s'il y a un temps, un moment, où on doit être certain qu'on appartient au roi de gloire, qu'on appartient au royaume de Dieu, c'est maintenant. Et s'il y a des gens ici ce matin, avant qu'on termine, vous savez que vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Vous savez ce matin que vous n'êtes pas en règle avec lui. Vous savez ce matin que vous vous êtes éloigné, vous avez retourné en arrière, mais que d'une façon merveilleuse ce matin, le Seigneur vous a ramené dans ce lieu. Chaque personne qui n'est pas absolument certain d'être sauvé, que ses péchés soient pardonnés et d'appartenir au royaume de Dieu, je vais vous donner l'opportunité ce matin d'avoir l'assurance, de sortir de cette salle avec une pleine assurance que vous n'appartenez plus au système de ce monde, mais vous avez été pardonné, sauvé, lavé dans le sang précieux de Jésus et vous avez été transporté dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant que nos yeux sont fermés encore juste quelques instants, combien de personnes ici, dans cette salle ce matin, honnêtement, sincèrement, vous êtes prêts à dire, j'ai besoin d'accepter Jésus ce matin comme mon Seigneur. Je veux lui donner ma vie. Je veux être certain d'appartenir à son royaume parce qu'il revient tellement bientôt. Toutes ces personnes, honnêtement, sincèrement, qui désirent cette chose, voulez-vous juste lever la main là où vous êtes, s'il vous plaît? Juste à me montrer votre main. Oui, merci. Oui, merci. Oui, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres, s'il vous plaît? C'est le temps ou jamais de prendre une décision. Oui, je vois votre main là-bas. Est-ce qu'il y en a d'autres? Merci, Seigneur. C'est pas moi qui sauve, c'est pas cette église qui sauve. Il y a juste un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia.
Amen.
On va prier ensemble, si vous voulez. Je demande à tout le monde de répéter ces paroles, mais spécialement vous qui êtes venus ce matin pour mettre votre vie en règle avec le Seigneur. S'il vous plaît, tous, on prie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais ce matin, tu es le seul vrai Dieu. Et en dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Je reconnais aussi, je suis un pécheur. Et ce matin, je te demande pardon de tous mes péchés, de toute mon ancienne vie. Et j'accepte de tout mon cœur le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais que tu es là maintenant, dans mon cœur. Déjà, tu as tout pardonné. Et c'est pourquoi je peux dire, je suis sauvé, je suis pardonné, j'ai la vie éternelle. Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Il est digne de louange et d'adoration. Oh, béni soit le nom de Jésus. Amen. Vous savez une chose? Le salut, c'est pas plus compliqué que ça. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu le dis de ta bouche, tu seras sauvé.
Gloire à Dieu. Combien d'entre vous, vous avez été bénis? Merci, frère. Et maintenant, on veut juste également... Pour ceux à la radio, sur Internet en ce moment, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie aujourd'hui, contactez-nous en écrivant à info@evqmedia.com et on va vous contacter, vous aider dans votre marche avec le Seigneur Jésus. Père éternel, on veut juste te remercier ce matin. On te remercie, Seigneur Dieu, pour ta présence qui était parmi nous. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole que nous avons reçue. Et ce matin, on veut juste te remercier pour cet après-midi qu'on va vivre ensemble et pour toutes les choses que tu vas faire parmi nous. On a pris au nom de Jésus pour ta gloire et je décrète sur chaque personne ce matin le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé. Au nom de Jésus, amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.